Bon, ce chiour est dédié pour la Refouat Shlema, la guérison complète de Naomi Shoshana Batsimcha Oror. Je vais faire un complément sur ce sujet qu'on a traité déjà il y a deux jours, la séparation hommes et femmes dans les bus, avec tout le grand tararam médiatique qu'il y a contre cela et contre le monde orthodoxe, donc Haredi en général. J'ai appris que même en France, ils en parlent beaucoup. Pas en bien. J'ai entendu, hein, je ne peux pas, je n'ai pas de preuve à cela. Dimanche, il y a eu une, si je ne me trompe pas, dimanche, il y a eu une manifestation ici à Jérusalem où des manifestants donc religieux, orthodoxes, même on va dire ultra-orthodoxes, se sont déguisés, quelques-uns, en détenus des camps de concentration avec une étoile jaune. Évidemment, ça a provoqué un tollé général dans les médias, ils ont fait monter des rescapés de la Shoah, qui ont dit « vous n'avez pas honte ». Et effectivement, donc là, devant la caméra, je souligne et exprime la position haredite orthodoxe qui, sans aucun doute, condamne ça de façon tout à fait irrévocable. Encore une fois, il s'agit de groupuscules ultra-orthodoxes qui n'ont rien à voir avec le monde orthodoxe qui est dirigé par les grands de la Torah. Ce sont des extrémistes. Il y en a dans le monde orthodoxe aussi. Tu as un éventail qui va du moderne orthodoxe, d'accord, jusqu'à orthodoxe, qui est encore plus. Et tu as certains groupuscules qui sont très intéressés, ils sont très contents d'Israël. Ils sont très intéressés à ce que le monde haredi soit en bisbise, en querelle avec l'État d'Israël. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour qu'il y ait amalgame de ce type-là, pour qu'ils nous disent quelque part, vous voyez, vous êtes copains avec les Israéliens, ben vous l'avez, regardez comment ils vous traitent. Donc nous devons, notre rôle à nous, c'est de rétablir la vérité telle qu'elle est, et dire qu'il est absolument exclu d'utiliser des choses aussi, pas dire le mot sacré, mais des choses aussi intouchables que la Shoah pour des fins de manifestation. Et je rappelle la position du monde orthodoxe de façon extrêmement claire. J'utilise pour cela le Rav Steinman, le Rav, donc un des grands de la Torah du monde authentique haredi, d'accord, à Bnei Brak, qui a fait une annonce aussi dimanche, qui a dit on accuse les orthodoxes de ne pas honorer les femmes. La Torah dit la chose suivante, c'est une Gemara dans les Bamot, qui dit qu'il y a une obligation pour le mari d'aimer sa femme, Ohava Kegufo, il doit l'aimer comme son corps, de même que j'aime mon corps, d'accord, je fais attention, je me protège, etc. Je suis important à mes yeux, de même manière, ma femme doit être importante à mes yeux. Omechabda Yoter Megufo, il faut l'honorer plus que son corps. Ça veut dire, tu dors avec un oreiller, elle aussi. Vous avez l'habitude. Maintenant, il n'y a qu'un oreiller. Eh bien, tu dors sans oreiller et elle à l'oreiller. Il y a le bon matelas, le mauvais matelas, c'est le cas le bon matelas. Il y a un steak, on ne peut pas partager en deux, ben, celle qui le mange. Enfin, en tout, tu l'as honoré plus que toi-même. C'est la position du judaïsme. Et je me permets de renvoyer la balle. Ceux qui nous accusent maintenant de ne pas honorer la femme, je me permets de dire, et vous, comment honorez-vous la femme? En la mettant toute nue, vous honorez quoi, là? Si on aurait la femme, j'ai entendu dire, prenez ça, mais bon, je pense pas ce qu'il faut, qu'il y a eu une manifestation de femmes non religieuses à Tel Aviv pour les bus de séparation hommes et femmes, se plaignant qu'allant à leur travail dans les bus mélangés, et aux heures de pointe où on est l'un sur l'autre, deux fois, une fois sur deux, elles se font, comment dire, aborder. Elles en ont ras-le-bol. Et je ne connais pas le métro parisien, mais on m'a raconté, dans le métro, on est l'un sur l'autre collé, des fois, on peut en profiter. Qui en profite? Plus les hommes que les femmes. La femme, même une femme, mariée, d'accord? Mais qui, pour plaire à son mari, doit mettre en évidence ses formes. Ce n'est pas une humiliation. Elle le fait parce que tout le monde lui dit que c'est comme ça qu'elle est quelqu'un. Mais demandons-lui vraiment à la femme. Est-ce qu'elle a besoin, elle a envie de faire tout ça? Elle doit ressembler aux images, dans l'habillement, dans la façon de faire, dans le tout. C'est une humiliation, c'est-à-dire que tu n'existes pas. Tu es une bête qui sert maintenant à pouvoir, un endroit où je puisse exprimer mes pulsions. Ah, tu n'es rien. La femme objet. Bon, c'est un lieu commun, d'accord, en Occident, la femme est femme objet. On a parlé de cela, mais on n'en parle pas trop, parce que après tout, les hommes aiment bien les objets femmes. La Torah dit non. Il est clair qu'une femme doit plaire à son mari, mais il y a tout l'aspect humain. Elle existe. Elle n'est pas qu'un corps. Elle n'est pas qu'une femme de ménage qui est une femme de, excusez-moi, de chambre à coucher, d'accord. Il n'y a pas que ça. Ou une femme de galerie pour frimer. T'as vu la tête de ma femme. C'est pas ça. Il y a un être humain avec quoi on a une relation qui passe aussi par le physique, mais pas que par le physique. Au contraire, s'il y a dans le monde un mode d'emploi qui valorise la femme, c'est le judaïsme. Sans aucun doute, aucun. Il n'existe, à ce que je sache, je n'ai pas fait une étude ethnologique très poussée, mais à ce que je connaisse, dans l'occidental ou dans la religion qui nous entoure par-ci par-là, il n'y a aucun mode d'emploi aussi honorifique, aussi respectueux, aussi humain. Humain. On a des cours qui prouvent que la Torah est d'origine divine. Par A plus B. Hachem, qu'est-ce qu'il pense de la femme? Un sous-être? Un être au service de l'homme? Pour tout dans sa bestialité? Chassé shalom. Chassé shalom. A Dieu ne plaise. Il est vrai qu'il y a le message et la gentille pratique. Et il est vrai que dans le monde orthodoxe, pas tout le monde est respectueux avec sa femme. Je connais ce entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais il est clair aussi que lorsque tu prends une société X et tu donnes un message, il est clair qu'une majorité de cette société va écouter le message, en tout cas sera influencée par ce message. Quel est le message qu'on entend en Occident sur la femme? Bête à profit. Être pas humain. L'humanité n'existe pas. Tu n'es que ton corps. Et tu as intérêt à avoir un bon corps. Il n'y a rien de plus humiliant. Et là, c'est comme ça que beaucoup de femmes se valorisent par leur corps. Mais il y a autre chose. C'est tout ce que tu as proposé dans ta vie, c'est ça? C'est ça, toi? Le message orthodoxe, juif et orthodoxe, dit il y a la valorisation de la femme aussi au niveau de son physique, mais pour son mari. Aux autres hommes, elle le cache. Elle le cache totalement. Parce qu'elle n'a pas attiré d'autres hommes. Elle a montré qu'elle est belle à d'autres hommes. Correct. Pas moche, correct. Par contre, au niveau humain, tous les mariés du monde orthodoxe aujourd'hui reçoivent une formation de savoir respecter leur femme. Parce qu'il y a des façons de faire. Et pas tout le monde est au courant. Il faut éduquer cela. Il faut faire rentrer bien, bien dans le crâne. Elle n'est pas à ton service. Il existe. Donc, quand le message d'une société sera respect, honneur, relations humaines, c'est clair qu'au niveau des résultats, ça donne les meilleurs résultats que lorsqu'on dit un autre message. Je ne dis pas que tout le monde réussit à pratiquer le message. Certainement pas. Pourquoi en gros? Parce qu'ils sont beaucoup influencés par le message occidental qui sointe et qui rentre aussi. Mais le message, il est ce qu'il est. Et il est clair que vu que le monde orthodoxe annonce ce message, donc dans le résultat, c'est beaucoup mieux. Comme je dis dans l'autre coup, je défie de trouver une société moderne. Ne trouvez pas une société perdue dans un pays arriéré où ils ont une société où tout fonctionne bien dans leur village, d'accord? Je parle d'une société moderne, occidentale, civilisée, où il y a autant d'honneur, autant de respect autant d'entraide, autant de solidarité, autant de gens qui ont la stature d'être humain à l'image divine. Dans le monde occidental, il y a moi. Moi et moi. Et l'autre, mais plus je peux l'écraser pour mieux monter, mieux c'est. Business is business. Ça se dit pas en hébreu, ça se dit en anglais, c'est pas pour rien. Tous les coups sont permis. Attention, pas de faire avoir. Pas de faire pincer. La Torah dit pas du tout ça. Elle dit, mais et toi, t'as une stature à l'image de Dieu, tu peux mentir? Dieu est le mensonge. Tu peux voler? On revient en Gilgoul, on est réincarné pour un vol. Beaucoup? Din pruta kedin mea. La loi concernant une centime est comme celle de 100 euros ou 100 000 euros. Interdit par la Torah, lave de oraita, de blesser son prochain. De blesser son prochain. Chazal dit, t'as craché par terre, quelqu'un part, passe, il est dégoûté, t'as un lave d'oreille, c'est comme si t'as mangé du porc. Dans quelle loi de société t'as une chose pareille, du respect de l'autre? Je veux voir où. Encore une fois, pas tout le monde le pratique ce message, mais c'est clair que si on fait de nouveau l'étude comparative, comme j'ai dit le dernier cours, les résultats ils sont là, c'est clair. Donc la Torah ordonne le respect de la femme, ordonne l'honneur de la femme, et pour cela, elle dit aussi, on veut une séparation homme-femme. Parce que tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il y a des tendances de rapprochement entre le monde masculin et féminin. Et je répète ce que j'ai dit la dernière fois, je vais répéter encore un peu mieux pour que les gens comprennent. Quand il y a un divorce, les premiers qui souffrent, ce sont les enfants. Un milliard d'enfants. Si on considère que la moitié des couples ont divorcé, donc on a 1,5 milliard d'enfants, mais quelle tristesse. Il n'y a rien de pire. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Un enfant, c'est innocent. C'est vulnérable. C'est les piliers de sa sécurité, de son bien-être, ce sont ses parents. Il voit son père, il voit sa mère, qui s'entendent, ça lui donne une sécurité intérieure. Il voit que c'est la bagarre. Il apprend que papa va avec une autre femme. Il apprend que maman va avec un autre homme. C'est terrible. Des séquelles à vie. On peut réparer. Je sais bien que quand je dis ça, je touche la moitié de la salle, parce que 50% de divorce, 57% pour être précis dans les couples juifs en France. L'argument s'appelle « on aime les enfants ». On ne veut pas être cruel avec les enfants. Papa aime maman. Maman aime papa. Mais papa, au travail, il y a d'autres femmes. Mignonnes. Et papa est sympa. Et il y a une camaraderie. Il y a des pressions au travail. On est ensemble. On vit ensemble. On vit 8 heures par jour avec ses camarades au féminin au travail. Et on est 2-3 heures le soir avec sa femme. Donc, on crée des relations, des liens, et c'est la camaraderie, c'est des fois même de l'amitié, pas encore de l'amour. Et tout à coup, c'est hyper rapide. Il y a un petit quelque chose qui passe, et ça finit patatras. Et des fois, le mari, il aime sa femme. Ou la femme aime le mari. Et c'est fait avoir. Le malheur que ça engendre, terrible! Terrible. Nous sommes les législateurs de la société. Donc nous devons choisir. D'un côté, il y a l'importance qui est des relations normales, entre guillemets, entre les gens. C'est pas si grave de serrer la main à une femme. Je suis d'accord. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on va mettre une grande distance entre le monde féminin et le monde masculin, on ne va pas évidemment régler le problème totalement. Il y aura toujours quelques tordus qui vont faire des bêtises. Mais on va de beaucoup arranger la situation. Il y aura beaucoup moins d'erreurs. Et qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner 500 millions d'enfants heureux parce que papa et maman s'aiment. Papa et maman ne regardent pas d'autres femmes ou d'autres hommes. Il faut choisir. C'est tellement important de serrer la main à quelqu'un. Oui, c'est important, il faut des relations normales. Mais c'est tellement important. Oui, si ça coûte rien, pourquoi pas. Mais regarde, c'est pas une fiction, c'est une réalité. C'est une réalité. Combien de gens malheureux, combien d'enfants malheureux à cause... Parce que c'est tellement important de serrer la main à une femme. Alors nous, en tant qu'amoureux des enfants, on dit non. On va mettre une distance entre le monde masculin et le monde féminin. Normal. Normal. Dans le monde entier, regardez, c'est normal. Il y a pas, c'est pas méchant, c'est pas primitif. C'est correct, c'est bien, c'est harmonieux. Et qu'est-ce qu'on gagne comme cela? Que les couples, beaucoup plus de couples, restent unis. Il y a moins de tromperies. Et on a un demi-milliard d'enfants heureux. Je crois que c'est tout à fait logique. Mais il y en a qui... Non. Au contraire, on veut être très proche des femmes. On aime les femmes. Et quand on entend que des orthodoxes, ils ont une société qui fonctionne, une éducation, encore une fois, comparativement, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais une éducation réussie, des couples réussis, l'entraide, une qualité de vie, on se sent menacé. Ces gens-là nous menacent. On ne pourra plus maintenant s'éclater comme on veut. Attaque. Attaque médiatique. Fausse. Truquée. Tronquée. Attention, c'est ce que nous pensons. On n'oblige personne. Mais si maintenant il y a des personnes qui ont compris cela et veulent vivre ensemble dans une société, dans un quartier, où les femmes vont habiller de façon décente, où on fait une séparation dans les mariages entre hommes et femmes, où dans les bus on va séparer. Nous on veut, nous là, tout le monde ensemble. Ça te dérange? On t'a dit quoi faire dans ton quartier? Encore une fois, on parle tolérance. C'est une démocratie? Nous, on s'est mis ensemble. Je sais pas, il y a les kibboutzim en Israël. Des gens qui voulaient vivre d'après les lois socialistes, avoir tous les enfants ensemble, dès qu'ils sont nés, on les met dans la même chambre. Faites ce que vous voulez, mais laissez-nous faire comme nous on veut. C'est une démocratie. Non, ça dérange. Ça dérange. Pourquoi ça dérange? Au nom de la Torah. Alors on a droit à une attaque médiatique, mais c'est terrible. Fausse, tronquée, truquée. Contre le monde religieux, qui fait, il y a eu plusieurs cas déjà d'attaques de religieux. Il y a eu 4-5 plaintes en Israël de gens qui sont attaqués. Des graffitis, morts aux orthodoxes, etc. Bien sûr, les médias, tu montes les gens. Ben, ils se montent, hein. On a vu il y a 70 ans ce que ça a fait.
Une petite fille.
Pardon ?
Une petite fille qui a été éjectée d'un bus de la ligne 4, qui était religieuse. Elle a fait un coup de pied, ils l'ont fait sortir du bus.
Scandaleux. 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 Dans notre pays, ça, dans notre pays, c'est scandaleux. À cause, et je précise bien, les Israéliens sont des gens très bien. C'est un noyau dur, gauchiste des médias, qui font ça. Hein ?
C'est à qui de s'occuper de ces gens-là ?
Il n'y a rien à faire.
On ne doit pas poser les livres et aller les voir un peu ?
Non, chassé chaleur. Surtout pas. La violence amène que la violence. Nous, on est pacifique complètement. Complètement pacifique. On prie et on explique. Donc, je finis ce que j'étais en train de dire. J'imagine que la vague de retour qu'Hachem va renvoyer va être terrible. Parce que si vous, entre juifs, vous comportez comme ça, vous faites des trucages médiatiques, ah ben alors maintenant, comme les goïms peuvent faire contre vous, eh bien, ils vont faire la même chose. Et on sait ce que c'est. Qu'on nous attaque, nous, qu'il n'y a pas d'armée plus éthique au monde que Tzahal. Il n'y a pas. Pourtant, on fait de nous pire que des nazis. Le trucage médiatique, c'est connu. Alors, Hachem, j'espère qu'il n'y aura pas aucune chose aussi mauvaise que cela, mais on se met en danger. Le Rav Shteman continue sa lettre et dit, lorsque dans le monde, on parle mal sur Israël, ça signifie que dans le ciel, il y a une accusation contre nous. Il rajoute, non seulement quand on parle contre Israël, mais quand dans Israël, on parle sur le monde religieux, ça prouve qu'il y a une accusation contre nous, le monde religieux. Parce que ça signifie que si maintenant Hachem fait, nous, tu te demandes qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tchouva. Quand nous, au niveau de la relation homme-femme, on n'est pas clean, les forces du mal se réveillent, nous accusent. Nous accusent. Ça, c'est la vraie action. Si on se rapproche de Hachem. L'explication, on doit faire pour tous les personnes qui sont, qui savent pas, qui croient, ils entendent des tas de messages, on est obligé de donner aussi le contrepoids, la vérité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Tchouva. Prie Hachem, qui ait pitié de nous, fasse tchouva, qui ait pris pitié du peuple d'Israël, qui ait l'unité, qui ait pas de guerre entre nous, parce que c'est la pire des choses qui puisse y avoir. Et nous renforcer beaucoup dans tout ce qui concerne le domaine masculin-féminin. J'en ai déjà parlé souvent ici. Le mérite de Ishmaël, c'est la Brit Mila. Brit, c'est une alliance. Alliance, c'est un mot d'Amila. C'est pas simplement couper le prépuce à l'âge de 8 jours. C'est durant ta vie, avoir une alliance avec Hachem au niveau d'Amila. Tu ne fais pas ce qui est interdit. Les regards interdits, numéro 1. Les pensées interdites. Les contacts physiques interdits, etc. Elle est là, la guerre. Tu veux vraiment faire quelque chose, c'est ça. Oui.
Juste pour revenir sur la séparation homme-femme que vous avez dit.
Oui.
Un jeune homme, même un jeune couple, un homme marié par exemple, il se retrouve devant cette situation de serrage de main, dans un travail, dans une société où ça marche comme ça. Il est d'accord avec vous quand il entend votre cours de dire qu'il y a un certain pourcentage de maboules dans le monde, mais devant la femme qui lui serre la main, il a plus à perdre que. Vous voyez ce que je veux dire, il a des enfants, il a une femme, il a un boulot, il ne serre pas la main.
Mais des gants, ça va.
C'est impoli.
Il y a un truc mieux à faire. Excusez-moi, je veux bien vous. Mais j'ai le sida, excusez-moi. Donc... Ah non, ça va. Bon, la réponse à ta question. Attends, je vais répondre. On m'a dit, et j'ignore sur quoi il s'appuie, qu'il y aurait des autorisations pour ce genre de choses-là. Pour serrer la main, pas plus, hein, pas la bise. Personnellement, moi, je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas en France, je ne sais pas ce que c'est. Ma réponse sur le principe que tu as dit, il a une femme, des enfants, un boulot. Ça, en fait, c'est toute la vie du juif. Nous sommes un peuple anormal. Hachem vient et dit à Abraham, tu auras des enfants. Il dit, je suis stérile, je n'ai pas d'enfants. Je vois, tu es astrologue, je vois maintenant au niveau astrologique, sur le Mazal, Abraham et Sarah, niette, pas d'enfants. Hachem le met au-dessus du Mazal, au-dessus des astres. Il fonctionne autrement. On n'est pas un peuple qui fonctionne de façon naturelle. Les autres peuples, oui. Nous, absolument pas. On fonctionne d'après d'autres lois totales. On est branché avec Hachem. Hachem est éternel, on est éternel. Dans la mesure où on quitte l'éternité d'Hachem, on se branche à la nature, on est voué à la mort. Parce que dans la nature, j'ai 7 minutes, je vais expliquer cela, une notion basique, très très basique. C'est marqué « En mazal Israël ». Il n'y a pas de mazal pour Israël. C'est quoi le mazal? C'est pas la chance. Le mazal, c'est la... Tout le système de gestion du monde. Le monde, il fonctionne. Il y a des saisons, il y a des mouvements astrologiques, astronomiques, il y a des cycles écologiques, il y a une nature, il y a tout. Il y a l'être humain, il y a combien d'argent chacun va recevoir chaque année, il y a les peuples, il y a combien de richesses il y aura, combien de pluies, etc. Tout cela est géré, il y a, donc tout ce qui est physique, est géré par une grande machine, un grand logiciel métaphysique qui s'appelle le Mazal. Et Hachem, en fonction des critères qu'il a, il va juger d'après le Mazal qui, quoi, a droit à quoi, comment ça fonctionne. C'est ça la nature. Il y a 70 racines de peuple. Chacune a un sar, c'est-à-dire un ange, c'est une entité spirituelle responsable d'amener le flux de la part d'Hachem sur le peuple dont il est responsable. Il y a 70 canaux. Mazal vient du mot nozel. Nozel signifie couler. Nazelet, rhume. Ça a donné en français le mot nez avec un z. Pourquoi nez? Parce que nez signifie couler. Ça vient de l'hébreu. 70 canaux. Alors, lequel coule le flux divin qui va donner la vie, la richesse, etc., la santé aux peuples qui sont gérés par ces différents mazal. Israël n'a pas de mazal. Naturellement, on n'a pas droit à la vie. On a un peuple, et tu regardes dans le monde naturel, les gens nous reprochent d'exister. Le monde serait tellement mieux sans un Israël, a dit quelqu'un à 70 ans. Dans son système de réflexion du mazal, tout à fait vrai, on dérange. Qu'est-ce qu'on fait là? On est hors nature, tu ne devrais pas être là. On n'a pas droit à la vie, naturellement. Hachem dit, tu te branches avec moi, tu es au-dessus de la nature. Mais tant que tu es branché avec moi, parce que sinon, je te mets dans le mazal, et vu que tu n'y as pas part, tu es cuit. Chaque peuple, par le mazal, a droit à une terre. Et chaque peuple a sa terre. Il y a un seul peuple au monde qui depuis 63 ans habite sa terre. 63 ans. Il y a beaucoup de peuples qui ont beaucoup moins de temps d'existence sur leur terre, en tant que peuple. Personne ne discute. C'est leur terre. Rien. 63 ans qu'on habite notre terre. Et l'ONU, donc la représentation des États, dit vous n'avez pas droit à cette terre. Elle n'est pas la vôtre. Attends, j'y étais moi, bien avant vous. Les Francs, ils viennent d'où? C'est des peuplades indo-européennes qui sont venus. Les Francs ont conquis les Gaulois il y a 2000 ans. Moi, j'ai des textes, j'ai des vestiges archéologiques, j'étais là il y a 3000 ans. Déjà, c'est ma terre. J'y étais il y a 2000 ans, j'étais il y a 3000 ans. C'est ma terre. T'as pas droit à cette terre. Discute pas. Pourquoi? Comment ça se fait? Nous sommes le seul peuple qui a vraiment droit à sa terre. Le seul peuple qui peut prouver qu'il était avant tout le monde. Le seul au monde. Les Américains, ce sont des conquérants. Ils vont prendre sur Internet, ils vont couper sur Internet. Le monde orthodoxe contre l'Occident. Rav Shaya, les Américains sont des conquérants. Les Français sont des conquérants, tous. On n'a pas droit. Maintenant, ce peuple qui n'a pas droit naturel, de façon naturelle, il a droit de façon surnaturelle. Comment? Vous en avez droit. Quand maintenant il y a le choix, tu me dis, ou je donne maintenant je serre la main à la dame, ou au boulot, je risque de pas faire long feu. Et j'ai une femme, des enfants, et un travail, il faut que je nourrisse ma famille. L'argument, elle, est naturel. Hachem te dit, écoute, moi je te dis, fais pas ça. T'as un choix. Tu choisis ou naturel ou surnaturel. Si nous sommes juifs ici dans cette salle, messieurs, que nos ancêtres, quand ils ont eu des choix pareils, ont choisi surnaturel. Ont vécu de façon complètement anormale, dans des conditions tout à fait non naturelles.
C'est des calibres.
C'est pour ça que tu es juif aujourd'hui. T'es un calibre aussi, mon cher ami. T'es un calibre.
Mais il est exprimé.
Pardon ?
Le calibre que vous avez, Abraham Avinu, vous ne pouvez pas le mettre.
Je parle d'Abraham Avinu. Nos ancêtres, ils étaient tous dans des conditions de galoute, où des fois pour faire Shabbat, pour manger une matzah, tu risquais ta vie. Pour faire Shabbat, tu risquais ta vie. Alors, c'est pas ta vie, c'est ton boulot. Aujourd'hui, le Yetzer HaRa est bien plus sournois, moi je dis. Parce qu'il vient déguisé en bonne femme. Bon, Christine, Ingrid, Tatiana. Oh, t'es mignon. À l'époque, c'était attention, tu risques ta vie. Les Juifs ont tenu, ceux qui ont tenu. On n'est que 13 millions, on aurait dû être des centaines de millions. On n'est que 13 millions. Grâce, c'est qui? Ceux qui ont fait Messirut Nefesh. ceux qui ont fait don de soi. Don de soi. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Je suis surnaturel. Ah, tu te branches avec moi, t'es avec moi. Tu deviens surnaturel, tu deviens éternel. On devient éternel, peuple éternel.
La décision ne dépend que de lui alors, au père de famille?
Qui d'autre, si pas lui?
Sa femme et ses enfants?
Non, non. Qu'à lui. Bien sûr. Sa femme lui dit, maintenant sois naturel, je veux manger. Faut écouter sa femme ou Dieu? Bon, encore une fois, dans ce cas précis, c'est la, fin, la main une dame, on fera la question à un rabbin, une autorité compétente sur place, qui tranchera oui ou non. Mais si c'est une chose plus grave, être en Yéhoud, par exemple, la Torah interdit d'être dans un endroit isolé avec une femme, enfermé à clé.
La porte claquée, c'est bon.
Hein?
La porte claquée, pas à clé.
Porte claquée, si quelqu'un peut rentrer à l'improviste, c'est permis. Sinon, c'est interdit. Ça, elle a 70 ans, j'ai 20 ans. Ah ouais, vous êtes une bande de magoules. Elle t'aura interdit. Maintenant, tu sors ou pas? Finir avec une belle histoire. C'est déjà une fois, j'ai fait un cours, j'ai amené toute la série, comme ça, de livres. Ils sont là, colonne de gauche, troisième étage, Levouche. Comme ça. 18 bouquins. C'est un rabbin qui s'appelle Rav Mordechai Yafé. Yafé signifie beau. Il était beau, très beau. C'était un Talmid Chacham. Il avait gagné sa vie. Donc le soir, il tournait avec des choses à vendre comme ça dans les maisons. Un jour, il tape à la porte. Une dame ouvre, le fait rentrer, fait un porte-à-clé, lui dit, t'es très beau, au lit. Et sinon, je t'accuse de viol. Classique. Ben, au même étage, même colonne, l'étage du dessous, c'est le Sde Chemed. Un autre bouquin appelé le Sde Chemed. Il habitait Hebron. Il commençait à grandir beaucoup en Torah. Un type était jaloux. Il a donné un peu d'argent à une fille arabe qui faisait le nettoyage dans la synagogue. Et elle sort en hurlant, il m'a violé. Grand tumulte, tout le monde se réunit. Laura vient voir, je vois mon élève. Voilà. Ouais, en train d'étudier tout ça, en kudusha, en sainteté. Il a fait un interrogatoire serré de la fille arabe et elle a avoué qu'elle a été payée pour ça. Un peu comme DSK, mais il y a 200 ans. Et bien il écrit, moi on m'a accusé à tort et moi grâce à ça, j'ai réussi beaucoup à monter en Torah. Quand on a une question de ce type-là, quelqu'un attend le Levouche, même chose. La fille lui dit, ça ou je raconte que tu m'as violé. Il dit, ok, je suis d'accord, mais je vais me préparer, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, là-bas il y avait les égouts. Les égouts, ce n'était pas des tuyaux comme à l'époque, comme aujourd'hui, c'était une sorte de canal qu'il y avait dans le bâtiment qui descendait dans la rue. Canal, c'est grand comme ça. Il voit, il peut rentrer. Il dit un vœu à Hachem, si je rentre et je m'en sors, pour chaque habit que je porte, je ferai un livre. Et il rentre dans le canal. Elle fait 200 mètres dans les égouts, je te dis pas. Et il ressort dans la rue. Grâce à ça, on a aujourd'hui les 18 livres du Levouche. Levouche signifie habit. Et il a demandé, il a fait une prière à Hachem, je veux que maintenant, pour les 10 prochaines générations, tous mes enfants soient laids. Il a eu un enfant, oi va oi. Et on m'a raconté que dernièrement, ils sont arrivés à la 11e génération, de nouveau, des garçons d'une beauté, des filles d'une beauté pudique. Baruch Hashem. Baruch Adonai.